Bienvenue à tous dans la maison du projet à l'Université Lyon 1 sur le campus de la DOA pour une émission spéciale Vive Voix, Voix Vive, pourrait-on dire, réalisée autour d'expériences et de paroles de femmes parce que c'est le 8 mars et que c'est la journée internationale des femmes et non de la femme, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir certainement avec nos invités. Donc nous sommes ici présents au sein de l'Université Lyon 1 pour célébrer l'expression des femmes, l'expression de femmes artistes. Alors elles sont écrivaines, metteurs en scène, vidéastes, comédiennes, dessinatrices, fabricantes d'images, créatrices d'images pourrait-on dire, photographes, poétesses aussi, parce que la poésie se glisse souvent dans les autres arts. Donc voilà, elles sont en tout cas ici et on les remercie de nous avoir rejoints pour cette initiative qui a été prise par l'Université de Lyon et son service culturel. J'ai ici avec moi la représentante du service culturel de Lyon 1, à qui je vais donner immédiatement la parole pour qu'elle nous en dise un peu plus de ce moment que nous allons passer ensemble.
Merci. Bienvenue, merci pour votre présence. Je suis la chargée de mission culture de l'Université Lyon 1 et je suis ravie de vous accueillir ici aujourd'hui, d'autant plus que c'est une première pour nous. C'est la mission culture qui, pour la première fois, organise un événement à l'occasion de la journée des femmes. Il y a aussi une charte d'égalité filles-garçons à l'Université Lyon 1. Donc cet événement s'inscrit comme d'autres événements qui sont programmés cette semaine dans l'Université Lyon 1, dans une politique de l'UCBL qui a à cœur effectivement de promouvoir, y compris dans le domaine des sciences, hein, la présence des femmes en tant qu'étudiantes à la recherche, etc. Donc merci pour la présence des artistes, en partie nous les connaissons déjà, en partie nous allons faire leur connaissance. Je crois que c'est intéressant aussi d'entendre des femmes artistes parler de leur quotidien, de la création, des difficultés qu'elles peuvent rencontrer, la manière dont elles accomplissent leur mission. Et je vous souhaite un très très bon moment ici à la Maison des Projets. Et n'hésitez pas, quand vous aurez des questions à poser, vous les poserez. Et je pense que toutes les intervenantes seront d'accord pour vous répondre. Et puis un merci spécial à vous et puis à votre collaborateur pour votre présence et pour l'enregistrement sur Radio Brume. Je pense que là aussi, c'est une première pour la mission culture.
Ben, je vous remercie beaucoup. Vous en avez dit beaucoup déjà sur ce qui va se passer et sur les thématiques qu'on va aborder avec ces femmes artistes. Alors c'est vrai que pour vous en dire un peu plus sur cette heure qui va se dérouler, quatre femmes artistes vont se saisir de la parole. Quatre moments de lecture vont ponctuer nos échanges, nos discussions. Il faut que ce moment soit interactif, hein, bien sûr, et soit un moment de partage, de dialogue, je crois, et de découverte, parce que nous avons avec nous nos invités, nos artistes femmes, qui ont leur carrière, qui ne sont pas des débutantes. Mais quand nous avons eu l'idée de développer avec Marie-Noëlle Ten cette émission spéciale, en tout cas de faire de cette rencontre une émission radio, eh bien, on s'est aperçu que peut-être il est aussi intéressant d'un point de vue médiatique de mettre en avant la création de femmes artistes comme Claire Truche, comme Catherine Demeure, comme Chloé Dubreuil et comme Sandrine Laroche, qui sont ici présentes, qui nous ont fait le plaisir donc de jouer le jeu et de participer à cette rencontre spéciale dans le contexte de la Journée internationale des femmes du 8 mars. Et parce qu'aussi, il est important finalement de leur donner la parole. Même si je n'aime pas le terme leur donner la parole, je préfère profiter de l'instant où elles vont saisir cette parole pour parler comme, euh, comme on l'a dit dans l'introduction, de leur quotidien, de leur création. Donc ça, c'est l'aspect positif, c'est ce qui fait, c'est leur motivation, c'est la manière dont elles se sont construites en tant qu'artistes. Et puis, il y a aussi les difficultés dans la société, dans le monde de la culture, dans le monde professionnel, dans le monde de l'entrepreneuriat culturel, par exemple. Il y a quand même beaucoup de limites encore pour les femmes. Et lorsque nous avons préparé cette émission, nous avons eu beaucoup d'échanges avec Marie-Noël autour de ces questions qui nous paraissent fondamentales et incontournables dans ces moments d'échange avec vous. Alors, j'ai dit quatre femmes, quatre expériences différentes de la création. Alors, je voudrais donner la parole tout d'abord à l'une d'entre elles. Alors, qui se tente en premier? Je vois que là, il ne faut pas vous crisper, hein, du tout, du tout. On est entre nous, le public est avec nous. Sandrine Laroche, voilà, je vous passe le micro. Alors, j'aimerais que vous nous définissiez un petit peu votre travail, parce que il mêle la science, la métaphysique, l'ésotérisme, la littérature, la poésie, énormément de choses.
Oui, c'est vrai, je pratique le piano, donc je suis professeure de piano. Je fais aussi des poèmes, j'aime beaucoup écrire des poèmes, je suis aussi photographe. Et donc j'ai l'impression un petit peu, même si j'aime pas ce mot artiste, mais d'être un peu une artiste vraiment à part entière, enfin de vivre ma vie vraiment... de façon très, très particulière.
Alors, c'est-à-dire de façon particulière, ça veut dire que vous vous consacrez à vos arts et à vos expressions et à vos créations de manière continue, ou est-ce que vous avez l'impression que, étant ce que vous êtes, ben forcément, vous êtes destiné à un parcours singulier?
Déjà, au départ, je pense que je me sens un peu singulière. Je pense que je me suis toujours sentie un petit peu différente des autres. Et finalement, donc, mon parcours, en fait, il est finalement que la résultante, en fait, de ce que j'étais au fond de moi. Donc, j'essaie juste au quotidien de m'exprimer, de montrer qui je suis vraiment. Et je trouve qu'au travers de l'art, c'est plus facile.
Et alors, comment vous créez? Seule, par fulgurance, d'une manière plus laborieuse? Quelle est votre pratique de l'art?
Alors en fait c'est un petit peu tout ça finalement, donc ça peut être soit de façon très très spontanée ou au contraire ça va être très très laborieux, ça dépend. En piano j'aime beaucoup improviser aussi, donc ça va être encore une fois assez spontané. Et puis après j'aime aussi bien retravailler ce que j'ai pu faire, donc c'est un petit peu tout ça à la fois.
Bon, alors comme vous avez eu le mérite quand même de passer en premier, je vais vous laisser tranquille quelques instants et puis je vais essayer de faire rebondir sur ce que Sandrine Laroche vient de nous dire à propos de son art et d'elle-même. Qu'est-ce que vous avez entendu dans ses propos,
Chloé Dubreuil? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand elle parle qu'il y a une interaction comme ça entre le piano, la poésie, la photo. Et je crois que dans l'art de la photo, il y a cette musique et qu'on retrouve aussi dans la poésie, hein, avec la musicalité des termes, qui peut s'exprimer dans la photo. Hein, il y a une grande poésie aussi parfois par le biais de l'image. Et une certaine mélodie aussi qui peut ressortir. Donc en fait, ce sont trois pratiques qui ont... qui se rejoignent en elles-mêmes. Et quand Sandrine disait que c'est une résultante de ce qu'elle est au fond d'elle, ben voilà, je crois qu'il y a une harmonie qui se retrouve dans la personnalité et ensuite dans la pratique de ces disciplines-là. Et moi, je vois pareil dans l'écriture. Dans l'écriture, on n'est pas une individualité, n'est pas monobloc. Donc finalement... On prend un petit peu tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qui nous inspire et tout ce qui nous fait avancer dans notre personnalité et que l'on traduit ensuite dans le verbe ou après, chacune dans sa manière de faire au théâtre, dans la comédie, dans la vidéo et, ou dans la photo. Et voilà.
Catherine Demeure, oui.
Alors, par rapport à ce qui était dit, ce que je retiens, c'est un peu l'idée de la perception du monde, c'est-à-dire qu'elle disait que c'était par rapport à un parcours personnel aussi qu'elle arrivait à sa pratique artistique aujourd'hui. Et je pense que, en effet, la pratique artistique, c'est une perception du monde, c'est-à-dire tout comme un réalisateur réalise un film, on est acteur du monde. Et moi, je dis souvent que l'art m'a sauvé la peau, c'est-à-dire que c'est quand j'ai découvert la pratique de nombreux artistes, que ce soit évidemment, moi je suis sensible à l'image, donc à des films, mais aussi des écrivains, des poètes, des musiciens. Cette ouverture de porte, je dirais, cette manière de voir le monde peut-être autrement, par un pas de côté, par l'émotion, qui fait que je me suis dit on peut être acteur d'un monde et créer un monde aussi.
Alors Claire Truche.
Oui, moi, ce que ça m'évoque aussi, dans le même parcours, toi, tu sais, ça t'a sauvé la peau. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression que ça m'a appris à vivre et que au départ, moi, j'étais comédienne. Après, l'histoire a fait que je suis devenue metteur en scène et que sans avoir jamais fait d'études, puisque je me suis arrêtée au bac, j'ai commencé à rencontrer des scientifiques, ce qui n'était pas du tout prévu. J'avais pas vu ça, mais c'est comme si à chaque spectacle j'apprenais à vivre, et c'est comme si c'était l'art et l'art de la scène et qui m'a fait que après je me suis ouvert au monde, parce qu'avant je pense que j'étais trop timide et je le voyais pas, j'arrivais pas, c'était trop grand, et enfin ça reste grand, hein. Ça reste très très grand et trop grand, mais en tout cas c'était comme si c'était l'approche artistique qui m'avait appris à vivre, et puis maintenant j'espère à partager.
Et est-ce que le monde vous perçoit tel que vous le souhaitez, puisque vous percevez le monde, vous êtes des acteurs, actrices, comment faudrait-il dire d'ailleurs ? Acteurs, actrices du monde, ce serait d'un coup réducteur parce qu'on penserait à actrice en tant que comédienne, alors que oui, quel langage devons-nous utiliser ?
Je sais pas. Je pense que tout le monde est acteur du monde, donc quelle que soit sa place. Et après, dans nos métiers, si on a la chance de pouvoir en vivre, c'est juste que c'est vu. Voilà. Enfin, et après, vu après, ça c'est une autre vaste question. Mais parce qu'après, il y a vu à la télé ou pas vu à la télé. Et après, ça déclenche autre chose, et c'est pas peut-être le but de la discussion. Mais c'est vrai que je pense qu'on est. On est des vénards, quoi. Peut-être, c'est ça. On est des vénards. Ben voilà, ça pourrait être une façon de nous.
Oui, vous vous considérez un petit peu comme des privilégiés, finalement.
Chloé Dubreuil. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'ont dit Catherine et Claire, parce que elles parlent d'ouverture au monde, toutes les deux. Et en fait, moi, dans l'écriture, c'est plutôt une fuite. Et c'est peut-être le propre aussi de certains écrivains, pas de tous, hein. Mais moi, c'est plutôt une fuite du monde ambiant. Donc, pareil, tout à l'heure, Catherine parlait de toutes les autres pratiques, quelque part, tous les autres personnes en lien avec une activité artistique l'inspirent. Et en fait, moi, par rapport à Sandrine, je parlais plus d'intériorité. Et c'est vrai que toi, tu es dans la vidéo, donc il y a cette ouverture comme ça au paysage ambiant. Et moi, j'ai l'impression finalement d'être un peu dans l'opposé là. C'est-à-dire qu'il y a une fermeture quelque part dans l'écriture. Moi, je parle souvent du nid dans lequel on se pose. Et quand on est derrière son ordinateur ou derrière son cahier et qu'on écrit, ça, je parle souvent avec mes étudiants aussi de ce genre de choses qui est en lien vraiment avec l'écriture, c'est-à-dire qu'on se fond en soi à l'abri du reste, dans le silence, déjà. Et on est acteur, en effet, dans le monde, parce qu'on reste en tant que femme, en tant que mère, en tant que de citoyenne, on reste ouvert au monde extérieur. Mais malgré tout, il y a peut-être une peur de ce monde-là qui fait que l'on en vient aussi à l'écriture. Dans l'écriture, il y a souvent, en atelier d'écriture, il y a mes étudiants, je leur demandais pourquoi vous avez envie d'écrire. Et ça revient régulièrement, se retrouver soi à l'abri du reste du monde. Et il y a quelque chose de très sécurisant quand on est en face de sa page avec ces personnages que l'on est en train de créer, d'investir, et pas avec le reste. Donc on n'a pas tout à fait la même...
Oui, alors juste une seconde pour dire, vous êtes dans le retranchement plutôt. Et c'est vrai qu'on le retrouve dans ce que vous dites sur votre propre art, cette peur aussi des autres et du monde. Des autres ou du monde?
En ce qui me concerne. Mais moi, la chance que j'ai eue, c'est notamment avec l'université, parce que j'officie à Lyon 2 et à Lyon 1. Mais par exemple, quand j'ai la remise de prix du concours Nouvelle et que je dois parler devant 60 personnes, ça m'a appris justement à aller, parce que j'étais aussi très, pas vraiment timide, mais très réservée et refermée sur moi-même. Donc ça m'apprend à m'ouvrir. Donc l'écriture, il y a ce paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a... À la fois, tous les jours, je me renferme sur moi-même, sur mon soi. Et en même temps, avec mes étudiants, donc quand je fais mes cours, ça me permet quand même de garder ce lien avec le reste du monde et avec autrui. Et ça m'oblige, et c'est une bonne chose, parce que sinon, je finirais à 7.
Ermite. Alors, juste une chose, d'où la nécessité d'ancrer... la culture et la création au sein de l'université, et qu'on ait des enseignants, pas seulement des enseignants chercheurs, mais des enseignants créateurs. Voilà, et je vous passe la parole, Sandrine, excusez-moi.
Mais justement, moi aussi, j'ai un petit peu cette même impression. On parlait tout à l'heure de en tant qu'artiste, d'avoir un côté un peu privilégié. Et moi, je voudrais ajouter que c'est pas forcément toujours si facile que ça, justement, parce que le fait justement d'être un petit peu face à soi-même quand on crée, d'être très seul, ça peut être assez difficile. Et puis se retrouver face à soi-même, ben on est face à toutes ces fêlures qu'on a en nous, tout ça, et c'est parfois très très difficile. Et c'est quelque chose que l'art peut aider à dépasser. Et de ce point de vue-là, je pense que l'art aide aussi à vivre. Mais c'est très très difficile en fait, il faut arriver à transcender vraiment tout ce qu'on a au fond de soi et toutes ces difficultés, toutes ces émotions pour arriver à faire quelque chose de vraiment intéressant. Mais c'est pas si facile que ça. Et justement, moi c'est pareil, je donne des cours aussi et ça m'aide aussi parce que j'ai aussi ce rapport aux élèves que je vois en solo. Mais c'est super important aussi d'avoir cette ouverture au monde parce qu'effectivement, l'art peut aussi être considéré comme une fuite un petit peu.
Comme une déconnexion au réel. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce point-là, à rajouter ? Claire Truche ? Et puis ensuite, on fera peut-être un premier interlude de lecture, si vous le voulez bien.
Oui, tout à l'heure, moi, je disais le mot vénard, mais c'est vrai que c'était un peu... C'est pas de la provocation, mais pas du tout, parce que je sais pas moi. Mais vénard, parce qu'on parlait de fait d'être acteur, et que je trouve que, voilà, comme on parle aux autres de façon un peu plus vaste qu'à son voisin, c'est ce en quoi on est vénard. Mais après, le fait de parler aux autres et de mettre sa vie et sa peau dans ce qu'on propose, c'est sûr que si l'autre en face, il apprécie pas, c'est toujours douloureux. Donc forcément qu'il y a les deux pans, on s'expose beaucoup plus. Enfin, on s'expose, quoi, forcément. Donc voilà.
Catherine Demeure, oui.
Moi, je voulais... plus revenir sur la notion de partage dont tu parlais, de transmission, c'est-à-dire que, comme certaines parmi vous, j'ai la chance ici d'animer des ateliers à la mission culture. Et je pense que dans un travail d'artiste, en tout cas pour moi, c'est très important aussi la transmission. Alors, il faut que ce soit aussi une part, il ne faut pas que ça prenne le pas sur le travail artistique, mais ça permet d'être au clair dans sa pratique. C'est-à-dire quand vous avez un cours, il faut être clair dans la technique, il faut être clair dans votre démarche artistique. Et donc, je trouve que c'est très important pour un artiste. Et puis, de mon point de vue, on est dans un monde de l'image et je suis toujours très surprise combien peu de gens connaissent les codes de l'image. C'est-à-dire que, évidemment, on va voir des films, on va voir des installations pour ressentir des émotions, pour comprendre peut-être mieux le monde, mais aussi pour pleurer, pour rire, pour avoir peur. Et tout ça sont des codes, tout comme quand on lit un livre. Un livre est composé de mots. Je dis peut-être des évidences, mais finalement, je vois pas tant que ça et que peu de gens connaissent la notion de cadrage, de plan, de rythme, de couleur, de mise en espace de l'image et que tout ça va amener le spectateur dans une émotion, dans un rapport physique ou intellectuel à l'image. Et je trouve que c'est très, très important de le transmettre.
Ah oui, absolument, d'autant plus que l'image, il y a l'image de fiction, celle du cinéma, et puis il y a l'image informative, il y a l'image liée aux médias audiovisuels. Donc si on ne sait pas décrypter des images et décoder l'image, on peut vite aussi tomber dans la désinformation. Et on vit aujourd'hui dans un monde qui est quand même composé d'une forme de désinformation à cause de l'image. Et si on apprenait aux gens à comprendre l'image, les cadrages, les plans, la mise en scène, eh bien, ça permettrait aussi de mieux décrypter les images dites informatives. Alors, j'aimerais maintenant peut-être avec vous revenir sur ce contexte de la Journée internationale des femmes. Est-ce que c'est un événement qui vous concerne réellement ou pas plus que ça? C'est tous les jours la Journée des femmes, ça c'est ce qu'on entend aussi régulièrement. Il faudrait qu'elle n'existe plus, parce que ça voudrait dire qu'il n'y en a plus besoin. Donc comment est-ce que vous positionner par rapport à cette Journée internationale des femmes, si vous aviez quand même quelque chose à dire. Parce qu'en même temps, on est loin d'être à l'égalité homme-femme et à l'idéal d'égalité homme-femme qu'on souhaiterait. Donc, est-ce qu'elle est utile, toujours utile, encore utile? Est-ce que c'est finalement de la com mais qui ne fait pas avancer les choses? Comment vous percevez cela?
Catherine Demeure, oui.
Oui, moi je pense qu'elle est encore très utile, hélas très utile. En tout cas dans le milieu de la vidéo, si on peut parler de milieu, c'est un milieu très masculin. Et je lisais récemment dans Le Monde qu'il y avait l'idée de faire des quotas sur la création artistique et la mise à disposition de bourses et de budgets pour la réalisation de films. Et je pense que c'est hélas important. Aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près à 18% de femmes réalisatrices. Beaucoup de pays d'Europe ont mis en place des quotas. Au Canada, l'idée, c'est d'avoir une parité d'ici 3 ans, d'ici 2021. Pour que, au niveau des acteurs de la vie culturelle, des personnes qui dirigent des lieux artistiques, il y ait beaucoup plus de femmes. Moi, je suis très heureuse qu'il y ait Claire Truche ici, qui est directrice artistique du Théâtre Astrée, parce que, Claire en parlera mieux que moi, mais en effet, la visibilité des femmes dans le milieu artistique pose encore question. Alors après, ça dépend évidemment de certains peut-être milieux. Hein. Moi, je parle plutôt de ce qui est lié à la création d'images, à la création d'images vidéo. Peut-être que dans certains milieux, dans la danse contemporaine par exemple. Mais voilà, je pense qu'hélas, on a encore beaucoup de clichés sexués qui sont de la société. C'est-à-dire que comme on voit dans la société, vous êtes avec des amis, il y a une caméra sur la table, on ne sait pas la faire fonctionner, on va se tourner vers un homme. A priori, une femme ne sait pas faire marcher un appareil photo ou une caméra. Par contre, si on va se poser la question d'un costume pour une pièce de théâtre, de maquillage, on va se tourner vers une femme. Et voilà, moi je déplore quand même qu'en 2018, on ait encore beaucoup de métiers qui soient encore, je pense, trop sexués.
Alors Claire Truche.
Alors oui, on parlait de la position. Alors dans le milieu du théâtre, ce qui est un peu différent, c'est que plus les théâtres sont importants, genre les CDN et tout ça, et plus ce sont des hommes qui, j'ai pas les chiffres, mais sont à 80% dans les grands théâtres les plus subventionnés. Après, il y avait, mais je sais pas si encore d'actualité, mais quand des femmes avaient des CDN, c'était les CDN avec le moins d'argent. Et puis après, ça s'inverse quand les théâtres sont dans les banlieues ou les petites villes et tout ça, où là par contre je crois que ça s'inverse vraiment et qu'il y a plus de directrices de théâtre que de directeurs. Donc voilà, c'est un métier où c'est encore, j'ai pas les chiffres en tête, mais si l'association HF a été créée il y a maintenant de ça plusieurs années, c'était suite à un rapport qui avait été fait comme quoi vraiment le milieu culturel n'a rien à envier, au contraire il est même exemplaire dans certains domaines par rapport à l'inégalité homme-femme.
Oui, il est exemplaire dans l'inégalité. Bon, alors donc on a besoin encore d'une secrétaire d'État
à l'égalité homme-femme aussi. On a besoin que dans les gouvernements, un ministère soit réservé à ça. Est-ce que vous, vous avez à peu près la même perception des choses ou pas? Alors,
Chloé Dubreuil, on va dire que dans le domaine de l'écriture en général, depuis le milieu à peu près du XXe siècle, je ne pense pas que les femmes aient encore à creuser leur chemin. Des femmes écrivains, il y en a maintenant pléthore. Et ça pose aucun problème, ni dans le domaine éditorial, il n'y a aucune différence. Elles sont acceptées telles qu'elles sont. Donc, au contraire, il y en a vraiment beaucoup. L'écriture a été d'ailleurs, enfin, en tout cas depuis le début du XXe siècle, les femmes sont très à l'aise dans ce domaine-là, respectées, il n'y a aucun souci. Après, ce que j'ai eu l'occasion d'en discuter tout à l'heure et d'en discuter aussi avec des étudiantes et des étudiants en début de semaine, dans la littérature, on a longtemps considéré, et ça reste un petit peu polémique, qu'il y avait qu'il pouvait y avoir une écriture propre aux femmes. Donc on en vient aujourd'hui à dire que c'est pas lié en lien avec le style, il n'y aurait pas un style proprement féminin, mais que, ce que je disais, il pouvait y avoir des thèmes qui sont pour lesquels les femmes écrivains auraient une prédilection. Alors moi, je suis pas du tout dans ce cadre-là, personnellement. Mais ce que je disais, hein, c'est une généralité. Et l'on dit encore que les femmes écrivains seraient plus attirées par les thèmes sentimentaux, de la famille, de l'intimité, du corps. Puisque au XXe siècle, les femmes, et notamment à partir des années 50-70, les femmes écrivains se sont battues justement pour écrire le corps en littérature. Et que donc les écrivains hommes s'accapareraient davantage tout ce qui est du domaine du social, des grandes questions sociales. Alors c'est vrai qu'il y a des femmes écrivains, que je disais aussi, qui se revendiquent écrivaines ou écrivains pour un public féminin. Elles ont le droit. Et donc qui sont très à l'aise avec les domaines dans lesquels elles se sentent femmes elles-mêmes, hein, dans leur vie privée, donc la famille, les sentiments, etc., l'intimité, ce qu'on disait. Mais je connais aussi beaucoup d'écrivains, et c'est mon cas, où on ne s'arrête pas à ces thèmes-là. Donc je pense que voilà, ça a beaucoup évolué en quelques années. Et je voulais juste dire également que je comprends et je trouve que c'est bien qu'en effet, il y ait encore une journée comme ça, parce qu'il y a beaucoup dans le monde, peut-être... nous en France on est assez privilégiés par rapport à ça, où il y a encore beaucoup à faire pour les femmes. Malgré tout, moi au quotidien, le respect de la femme, c'est pas une journée par an, c'est tout au long de l'année, et avec les jeunes avec qui je suis en contact, on en parle très souvent, les jeunes hommes et jeunes femmes, on parle beaucoup de ce sujet là donc c'est un combat qui est plus combat entre guillemets, parce que je n'aime pas trop ce terme, il faut arrêter la guerre des sexes, quoi. Mais voilà, c'est plus dans la notion de respect qui est à vivre, essayer de vivre au jour le jour, quoi.
Oui, Sandrine Laroche.
Et moi, dans mon métier de photographe, j'ai l'impression que les choses, elles tendent à changer un petit peu. Parce que, par exemple, quand je regarde le prix HSBC, un prix très réputé en photographie, par exemple, en 2017, c'était deux lauréates, en fait, qui ont remporté le concours. Et j'ai l'impression que les choses, elles commencent un petit peu à changer, en tout cas, moi, dans mon regard de photographe. Et c'est vrai que je me suis posé la question plusieurs fois. Je me suis dit, par exemple... Si je demandais à l'un d'entre vous de me citer un homme photographe, en fait, ben, ça vient assez instantanément. On parle de Willy Ronis ou de Pardon. Et par contre, si on demande de citer une femme photographe, tout de suite, c'est un petit peu plus compliqué. Et en tout cas, moi, pour ma part, je sais qu'en tant que photographe, j'ai eu l'impression, en tout cas la sensation, de devoir donner plus ou de faire des choses qui étaient peut-être un poil plus choquantes ou pour me démarquer de la concurrence masculine. Et je pense que dans le domaine des femmes photographes, quand on pense par exemple à Saliman, qui faisait des photographies d'hommes ou de femmes à la morgue, c'était quand même très 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 particulier. Et dans le domaine de la musique plus particulièrement, parce que mes parents étaient musiciens, c'est vrai que moi j'ai été élevée aussi, par exemple, je parlais tout à l'heure de chef d'orchestre. Et à l'heure d'aujourd'hui encore, je pense qu'il y a au moins 90% des chefs d'orchestre qui sont des hommes. Et il y a une certaine aura autour de ces chefs. Et là, pour le coup, on ne dit pas chef tête d'orchestre, en fait, parce que ça n'existe pas. Et là, ça, c'est un domaine, enfin, en tout cas, ce domaine de la musique, ça, c'est encore vraiment très, très particulier, quoi. Et même des compositeurs, oui. C'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup des hommes. Il y a eu quelques femmes qui ont été assez, assez reconnues, mais justement, c'est parce qu'elles faisaient un peu l'exception.
Oui, donc on aime bien encore quand elles sont à la marge, quand elles sont à l'exception. Et en plus, dans le mot « cheftaine », il y aurait encore une notion péjorative.
En plus.
Alors, je voudrais quand même faire intervenir le public, là, qui s'investisse un petit peu, parce que là, il s'agit justement de la perception de cette journée internationale des femmes. Et j'aimerais bien, au regard de ce qui a été dit par nos invités, qu'ils puissent réagir et eux donner leur avis.
Juste rapidement. Mais hier, je feuilletais le Lion Citoyen, le dernier Lion Citoyen. Je ne sais pas si vous l'avez vu, avec en couverture Paul Bocuse. Donc, merci Monsieur Paul. Et puis, je tourne la page. Et là, il y a une double page. Donc, c'est la cérémonie à la cathédrale Saint-Jean pour lui rendre hommage. Et puis, tout de suite, en fait, il y a quelque chose qui m'a choquée, effectivement. Et j'en ai parlé à ma fille, d'ailleurs. Je lui ai dit, mais regarde, il n'y a pas quelque chose qui t'interpelle dans cette photo? Et puis, elle me dit non. Et puis, je lui ai dit, mais enfin, il y a combien de femmes sur cette photo, sur toute l'assistance? Et en fait, on en a trouvé 4 sur... la cathédrale Saint-Jean était pleine. Hein, et on a trouvé 4 chefs. Donc, chefs, hein, cuisiniers, chefs en gastronomie. Voilà, du coup, c'était juste pour ma petite contribution. Mais c'est vrai que c'est aussi un domaine, la gastronomie, où les chefs sont majoritairement des hommes. Alors qu'à la maison, je racontais à ma fille, alors qu'à la maison, c'est toujours maman qui cuisine, parce que papa est au travail, souvent, hein, c'est encore le cas. Et par contre, quand il s'agit de faire de la gastronomie, quelque chose de prestigieux, ce sont des hommes. Donc là aussi, il y a peut-être des... Voilà, un chemin à parcourir pour les femmes aussi et les hommes, qui laissent la place aussi un peu aux femmes. Voilà. Parce qu'elles ont aussi des talents en cuisine, évidemment.
Claire Truche, ce que vous dites, ça me fait penser que quand même ces chefs, je crois que c'était des chefs du monde entier. Et que, voilà, et que pour arriver, je pense, à ces endroits-là, mais comme on parlait tout à l'heure d'arriver dans des CDN ou d'arriver à... très haut niveau reconnu, ça c'est une vaste question et moi j'ai absolument pas la réponse, mais j'ai l'impression que c'est des histoires de caractère aussi. Il y a évidemment le talent, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup qui rentre en jeu, ce qu'on met en œuvre pour arriver à des hauts niveaux. Et alors moi j'ai pas la réponse, mais j'avais des fois entendu des gens qui disaient qu'effectivement il faut des caractères. Alors ça serait absolument ridicule de dire que les femmes n'ont pas ce caractère, mais j'ai l'impression que des fois après on sait jamais si c'est nous personnellement, enfin ce qui est du fait de notre enfance et de notre comment on a été fichu et élevé, qui fait que à un moment donné, moi je sais que dans mon métier il y a des choses que je peux pas, ça serait trop dépassé. Enfin je veux dire, pour arriver à des niveaux, c'est même pas pensable, ça, c'est... Alors après, on n'a jamais la réponse. Est-ce que c'est parce que j'ai été éduquée d'une certaine façon qui fait que déjà... Enfin, j'arrive pas déjà parce que c'est... Oui, est-ce que pour arriver à des hauts niveaux, faut pas déjà avoir une confiance en soi et qui est... j'ai l'impression qu'il faut repartir un peu à zéro quand on est une femme, mais c'est un peu con ce que je dis, donc je vais passer la parole.
Non, c'est pas con du tout, mais au contraire, vous anticipez un petit peu sur le thème qu'on va aborder, qui est celui de l'éducation, mais puisque vous aviez le micro, vous allez le conserver pour nous offrir une lecture, un moment de lecture, si vous le voulez bien.
Bon, c'est un texte de Laurence Vielle, d'un livre qui s'appelle « Ouf », mais elle ne sait pas que j'ai beaucoup aimé ce texte et que je vais le lire, donc voilà. Ma mère m'aérait tous les jours quand j'étais bébé, tous les jours. Un tour en poussette dans le quartier, en poussette dans le jardin, petit tour autour du lac, tous les jours. Ma mère m'aérait tous les jours. En été, on s'aère à la campagne, on s'aère à la montagne. En été, va jouer au jardin, il fait beau, va jouer dehors, va prendre l'air, elle me dit. À la campagne, je roule sur l'herbe en regardant le ciel. Ça tourne. Quand ça s'arrête, je fixe le ciel. Toutes les formes du monde défilent dans les nuages. Je cours avec mon filet pour attraper les papillons. Je souffle sur les pissenlits et quand je roule à vélo, l'air affole mes cheveux, l'air aspire mon visage. Quand je grandis, quand je cours, je suis essoufflée. Je n'arrive plus à prendre l'air, je suis essoufflée. Quand je cours moins vite que mes amis, je cours moins vite, je grandis trop vite, je suis essoufflée. Quand je cours vite, je grandis trop vite et j'ai le souffle court. Allez, va prendre l'air, dit ma mère. Va prendre l'air, va prendre l'air. Elle ouvre la fenêtre de ma chambre, tout grand, le matin, l'hiver, il fait froid. Aère ta chambre, dit la mère. Aère, aère. Et le père, l'air de rien, ne revient pas souvent à la maison. Le père prend l'air. La mère fait entrer le vent dans la maison. La mère aère, aère, aère. La mère aspire les poussières, range les affaires. La mère ordonne l'air dans la maison. La mère ordonne les fleurs au jardin. La mère prend soin de l'air à la maison. Le soir, revient le père. Plus un mot entre eux ne traverse l'air. Leur colère agite l'air de la maison. Et la fille prend l'air de l'air dans ses rêves. La fille dort de plus en plus longtemps. Ne regarde plus les nuages. Ne regarde plus les poussières qui scintillent dans le noir. Ne souffle plus les pissenlits dans l'air. La fille rêve. Va prendre l'air. Va prendre l'air. Va prendre l'air, dit la mère. La fille ferme sa porte. Bouche l'air avec ses musiques. Bouche l'air. Mère crie. Mets ta musique moins fort. Va prendre l'air. Range tes chambres. Sortez des maisons. Les portes claquent. Clac, clac, ça claque à la maison. Ça claque à la maison. Les portes claquent. Clac, clac, ça claque à la maison. Les portes claquent. Clac, clac, ça claque à la maison. Je m'en vais dehors. Je prends l'air dans ma bouche. Je le sors en paroles et claque, je remplis mes poumons d'air. Ma bouche remplit l'air des mots des poètes et claque, j'ai l'air heureuse avec les poètes. Un homme embrasse mes lèvres, souffle dans ma bouche, nos bouches se touchent. L'air de nos corps se love dans nos bouches qui se touchent, nos corps se touchent. Il n'y a plus d'air entre nos corps se touchent, je respire fort. Nos corps se touchent, je respire fort, fort. Je respire fort, je respire fort, fort, je respire fort, fort. Il n'y a plus d'air entre nos corps, je respire fort, fort, fort. Je cours à mon travail. Je cours pour mettre la maison en ordre. Je suis essoufflée, je veux prendre l'air, de l'air, de l'air, de l'air. J'aère la maison, j'ouvre grand les fenêtres. Clac, clac, j'ouvre les fenêtres. Dehors, il fait froid, mon enfant pleure. J'ouvre grand la maison, j'aspire les fenêtres. Je fais le tour de l'enfant avec mon lac. J'aère mes poussières, j'ouvre les canards. J'aère mes fenêtres, j'aspire mon enfant. Parfois, il n'y a plus de corps entre nos airs. Parfois, il n'y a plus de corps dans ma respiration. J'ai l'air de quoi ? L'air, à l'air, à l'air, à l'air de quoi ? J'ai l'air de quoi ? À l'air.
Quand je vous disais qu'on fait peut-être une émission en l'air. Oh, merci beaucoup. On peut l'applaudir, non ? Moi, je crois qu'on peut l'applaudir pour cette lecture. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Vous avez l'impression d'une écriture de femme. Vous avez l'impression que, à travers cette lecture, on aborde évidemment aussi la question de l'éducation, du traitement qu'on réserve aux femmes dans la sphère privée dès leur enfance, la manière dont on les projette dans le monde extérieur, qui sera le monde professionnel, qui sera leur monde social, le monde social. Ce thème de l'éducation, il est vraiment fondamental. Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'éducation est responsable des clichés qu'on continue à véhiculer, des préjugés dont vous parliez très bien tout à l'heure, à savoir qu'on n'imagine pas une femme ingénieure, on n'imagine pas a priori encore aujourd'hui une femme dans la technique, mais on l'imagine plutôt dans le milieu du cinéma, dans le maquillage, dans la coiffure, ou alors script, mais pas encore tout à fait metteur en scène. Voilà, est-ce que vous pensez que c'est l'éducation de nos pays, parce qu'on là, on est obligé de sortir du cadre strict de la France, hein, dans nos pays occidentaux, parce qu'on peut encore plus difficilement parler de ce qui se passe dans le monde qui n'est pas le nôtre, enfin le monde occidental avec l'éducation des enfants que nous connaissons, parce que là, c'est encore autre chose, d'autres repères historiques, d'autres civilisations, donc, et qui véhiculent à la fois d'autres problèmes, mais aussi d'autres façons d'appréhender les femmes. Par exemple, on sait qu'il y a le système matriarcal, il existe aussi dans des sociétés alors qu'on ne le soupçonne pas de notre point de vue très ethno-centriste, très européen ou très occidental.
Chloé Dubreuil, oui, on va dire la civilisation judéo-chrétienne. Mais oui, bien sûr, je pense que c'est infiniment lié à la manière dont on était, dont on est éduqué depuis des millénaires. Mais ça évolue. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça évolue quand même bien dans le bon sens depuis quelques années, quelques longues années, moi je dirais même. Hein. Donc, je suis plutôt confiante par rapport à ça. Ça se fait quand même. Il faut des transitions, évidemment. On peut pas changer les mentalités du jour au lendemain. C'est pas possible. Donc, il faut des phases transitoires. Je pense qu'on est dans un siècle transitoire et que le 22e ou 23e siècle, il y aura eu une grosse évolution par rapport à ça. C'est sûr que quand on se retourne dans l'histoire et qu'on regarde, ne serait-ce comment les choses se passaient au Moyen Âge, je trouve que voilà, ça a commencé, il y a eu une amorce de fait tardivement, très tardivement par rapport au moment où l'homme est apparu sur Terre, mais enfin on peut pas chasser et éteindre, on va dire plus de 3000 ans, 2000 ans, en tout cas on va s'en tenir à l'époque de l'apparition d'automatisme, de préjugés, on peut pas les chasser comme ça.
Oui, Sandrine Laroche.
Oui, moi je suis d'accord aussi qu'il est important aussi de pouvoir regarder le chemin parcouru et pas toujours ce qui reste à faire, parce que forcément ce qui reste à faire, ça paraît toujours un petit peu un peu impossible. Je pense aussi que le chemin aussi, il est à faire pas seulement dans l'éducation, parce que aujourd'hui, quand on voit que les enfants regardent énormément la télé, qu'il y a une part d'Internet qui est très importante, je pense aussi que peut-être ça peut être fait aussi dans d'autres domaines, par exemple dans la publicité. Ça peut être intéressant aussi, parce que quand on voit encore des publicités où le goûter se fait avec la maman, où il y a vraiment des choses... c'est encore assez flagrant quand même, et je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu dommage.
Est-ce que cette façon de faire de la publicité encore aujourd'hui ne découle pas aussi de l'éducation qu'on véhicule toujours? Alors, vous aviez pas l'air tout à fait en phase du côté droit. Vous aviez l'air un petit peu plus sceptique sur l'évolution, peut-être un peu moins positive.
Catherine Demeure, oui.
Disons que je pense qu'on est des êtres avant tout culturels, en effet, plus que biologiques. Alors, je rejoins Chloé dans l'idée qu'en effet, en France, on a la chance d'avoir une certaine liberté d'action, une liberté morale en tant que femme par rapport peut-être à d'autres pays dans le monde. Mais moi, je suis quand même encore en effet inquiète de voir justement dans nos métiers, alors qu'on croise des gens qui lisent de la poésie, de la philosophie, qui ont un regard a priori assez humaniste sur le monde, mais que les métiers de décision, qu'il y a encore beaucoup de clichés, les métiers de décision sont souvent tenus par des hommes, que on retrouve encore beaucoup de clichés culturels, et que la société les véhicule encore beaucoup. Pour l'anecdote, récemment, pour un nouveau-né, je suis allée dans un magasin de jouets qui me semblait un petit magasin assez sympa, et tout était en bleu pour les garçons et tout en rose pour les filles. On est en 2018, donc c'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a l'histoire, il faut se réjouir de certaines questions, mais par moments, je suis quand même étonnée qu'en effet, les femmes font encore autant la cuisine, même si c'est super de faire la cuisine.
Alors, Claire Truche, on parlait d'éducation, et moi, je suis tout à fait d'accord en disant que, quand vous disiez que c'est aussi ce qui est véhiculé. On est quand même dans un monde énormément d'images. Alors, on parle de quotas, mais je trouve qu'avant les quotas, il y a un moment donné où... Alors, on n'a pas le droit de dire qu'on est choqué par certaines images, parce que c'est la liberté, mais moi, c'est vrai que j'en peux plus, moi, de ce qui est véhiculé par les publicités. Parce que c'est... Enfin, ouais, moi, ça m'exaspère, mais après, c'est ringard de dire ça, parce que on doit faire... on doit tout montrer. Mais je trouve ça d'une violence absolue. Et je trouve qu'on est dans ces sociétés où il y a des gens qui s'offusquent de tout. Et puis, on montre des images. Alors, donc, c'est vrai que... Mais si on dit non, c'est offusquant, alors tu dis... Ah bon, alors, du coup, t'as pas le droit de le dire. Mais si déjà, les gens faisaient déjà un peu attention aux messages qu'ils véhiculent,
En tant qu'artiste, il me semble que ce sont des artistes, ils devraient au moins y penser. Mais là, à bout d'un moment, c'est que pour faire de l'argent. Bon, ceci dit, est-ce que le regard, il paraît que ça sert encore de mettre des femmes à poil pour vendre une voiture. Mais il paraît, mais et qu'est-ce qu'on en sait? Enfin, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc, enfin, tout ça, moi, c'est vrai que ça me... Parce que le boulot pour les parents, il est encore plus difficile, vu qu'on est abreuvé d'images. À côté, je trouve que c'est toujours plus difficile de passer le pas, de dire « Ah mais non, mais fais attention, et tout ça, ces images, elles véhiculent un autre message. » Mais à un moment donné, on peut pas tout faire, quoi. Donc s'il y a pas... Enfin, moi, je trouve que c'est plus important à des moments de dire que c'est bon, on n'est pas de la bidoche, plutôt que de faire des quotas. Voilà. Mais bon, ça demanderait des lois qu'on n'a pas le droit de faire.
Oui, la question des quotas, c'est toujours une question assez clivante. Est-ce qu'il faut imposer des quotas ou est-ce qu'il faut laisser progresser les mentalités, sachant que là, forcément, ça prendra un petit peu plus de temps. Alors, vous avez dit très justement, nous sommes des êtres culturels et non des êtres biologiques. En même temps, est-ce que c'est pas par la science qu'on va arriver à faire aussi éclater tous ces préjugés et cette sexualisation du monde ? Et notamment des arts et de la culture. Vous qui travaillez sur le rapport avec les sciences, est-ce que ce n'est pas en s'apercevant que quand on écrit, on ne fait pas fonctionner une partie du cerveau qui serait propre à la femme, quand on apprend que on peut se reproduire d'une manière autre que par le ventre qui reste la matrice et vraiment le support de reproduction à l'image de notre civilisation judéo-chrétienne. Est-ce que c'est pas la science aussi qui va bouleverser un petit peu tout ça? Et comment vous vous positionnez par rapport à ce qu'on imagine bien qui arrivera dans les années à venir avec les progrès scientifiques et biologiques? Enfin, scientifiques dans le sens où la biologie, la chimie et la physique vont toutes se conjuguer pour faire de nous bientôt des hommes différents, des humains différents. Quel est votre point de vue là-dessus? C'est de l'anticipation encore?
Chloé Dubreuil. Je voudrais juste dire, dans l'écriture, mais ça c'est pas propre à l'écriture romanesque ou ça peut être pour le théâtre, tout ce qui est écriture créative, on parle pas de zone du cerveau qui serait plus féminin ou autre, on dit qu'on écrit avec deux zones de son cerveau, l'aire de l'intuitivité et l'aire de la rationalité, puisqu'il y a besoin de ces deux éléments pour... voilà, tenir une histoire. Donc voilà, il n'y a aucune question de sexe dans le. J'en discutais tout à l'heure. Moi, ça m'agace un petit peu tout ça. C'est pour ça aussi que je disais que je ne me dis jamais écrivaine, mais écrivain, parce que je dis que l'écriture n'a pas de sexe. C'est pas une question de. Voilà, c'est pas une question de genre. C'est plus que ça. Moi, je comprends tout à fait qu'on se batte sur certains terrains, qu'on ait envie de faire évoluer les choses favorablement, c'est tout à fait normal. Mais je crois que peut-être, parfois, c'est ce que vous disiez, il faut, j'en reviens à dire la même chose, laisser aussi faire en sorte de pas laisser, parce qu'il faut, il faut agir. Et quand on est, c'est vrai, quand on est dans l'art, enfin dans un métier artistique, c'est important aussi de le faire, de le suggérer. Peut-être plus que de l'affirmer avec véhémence, mais je crois que on parlait de la publicité tout à l'heure, mais une publicité qui fait d'un homme un objet, ça me hérisse tout autant que d'une publicité. Donc voilà, il faut c'est plus à ce niveau-là essayer d'arrêter de catégoriser les choses et plus d'être dans le vivre ensemble femmes-hommes que l'idée les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars, quoi. Et puis de toute façon qu'il y ait des différences, c'est très bien aussi. On peut être dans la complémentarité, pas dans l'opposition. Donc c'est bien qu'on garde aussi peut-être des différences dans certains domaines. Voilà.
Alors vous parliez de l'écriture, vous parliez du langage, on peut aussi parler des langues. Le fait que dans le français il n'existe pas de genre neutre, c'est un véritable problème. Vous disiez, je peux me définir comme écrivain et non pas comme écrivaine. Parce que dans le français, comme il n'y a pas de genre neutre, on comprend le masculin et le neutre dans le même genre. Donc quand on dit écrivain, il peut s'agir d'un homme ou d'une femme. Mais la sexualisation des choses fait que on a aussi retranché le neutre dans le masculin. Alors, une étudiante parmi nous, dans le public, qui souhaiterait intervenir et réagir. Alors, vous aviez une réflexion, un commentaire à faire à propos de ce dont on discutait juste jusqu'auparavant.
Oui, sur la question de l'éducation. Donc moi, j'ai, alors d'aujourd'hui, j'ai 20 ans, donc je pense que je suis quand même très jeune. Et je disais donc que moi, j'ai été éduquée en fait sans compartimentalisation de maman est à la maison, papa au travail. Mes parents ont toujours tous les deux travaillé. Et du coup, c'est vrai que je suis peut-être moins choquée par les images de maman donne le goûter, parce que je sais que moi, dans mon quotidien, ça se passait pas comme ça en fait. J'avais une semaine sur deux, soit maman, soit papa qui donnait le goûter, et du coup, je fais peut-être moins attention. Et j'ai donc mon chéri aussi qui, lui, son parcours fait qu'il a été élevé tout seul par sa maman, et c'est pas pour autant qu'il ne m'aide pas ou qu'il est. Donc je pense que le rapport qu'on a aux images aussi, c'est la façon dont on vit notre quotidien quand on est. Quand on est enfant, en fait, aussi. Si on a l'habitude de voir tout le temps maman à la maison, ben on va trouver plus banal les images où on voit la femme à la maison. Mais si on est élevé en même temps par maman et papa à la maison, ben on n'y prêtera pas attention, parce qu'on sait que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Dans notre réalité, ça ne se passera pas comme ça.
Donc, ce qui permet d'avoir un recul par rapport aux images que nous renvoie la société, puisqu'on sait que ça ne nous concerne pas. Alors, vous allez prendre la parole à nouveau, mais pour faire des lectures d'Odile Kardec.
Alors, je vais lire d'abord un premier poème. Des coups de pied dans les murs de béton qui contiennent les dames qui posent des questions. Moi, je ne réponds pas à la question date de naissance. De chaque seconde, je suis expulsée en trombe. Je crie très fort pour trouver une place à l'ombre. Date de naissance ? À l'instant, me voici. Je n'ai rien à voir avec la photo d'une dame en prison dans un rectangle. Je cultive la naissance ininterrompue. In manus tuas. J'ai confié ma tête et mon cerveau à volute à une femme qui, depuis 30 ans, peigne les dames. Elle a fait de la dentelle avec les os de mon crâne. Elle a pressé sous le robinet ma petite tête d'épingle. J'ai abandonné mon chef dans une vasque à soupir. Mes oreilles ont été prises en main comme des anses. Dans tes mains, je remets mon esprit. Minuit cyclone. Minuit cyclone. Minuit l'oriente vers pieds et mains. Extrémité du monde. La fée palpitante de drap. Elle est cervelle plane, volume, cube, lune, vaisseau spatial. A cessé d'être femme et d'avoir mal au corps. Senton déshabillé, polichinelle détroussée. Le cœur débarrassé de son gluten s'élève tel Vénus. Elle n'a plus de baleine sous la peau. Elle écarte le bruit. Elle tombe. Si quelque chevalier venait la prendre en croupe, quel chiffon ! Poisson d'appartement, qu'as-tu fait de tes bottes boueuses, de la râpe, du velours côtelé ? Pourquoi as-tu mis le couvercle d'un toit sur la bouteille de ton sang ? Je ne regretterai pas d'avoir longtemps été frivole, d'avoir eu des enfants à pousser dans la vie et ces collines de nourriture. Le balai à la main, je mesure le monde à parcourir. Que chacun soit libre et mesure la maison à sa façon. Que l'édredon couvre des pieds de sans arpents ou des moignons. Les circonvolutions nous font perdre la tête. Pourquoi ne sommes-nous pas simples comme les simples des bois ? Il faudrait dormir sous le champignon, découvert brusquement, surgir dans son odeur et le faire courir avec l'eau du bonhomme. Nous sommes de l'eau chapeautée, beauté peignée. Pour un quinquagénaire. Me voici avec 50 boulets de canon indemnes, mon cerveau est un peuplier frissonnant. Les chaussons font le tour de la maison, j'ai une joie pour tous les arbres de mon âge, de mieux en mieux je sais me battre, contre les bêtes vrimousses. J'accroche des poèmes au derrière des automobiles. La dentelle de tes mains pose un fruit sur notre table. Par-delà ce fruit pesé, la cuisine prend la mer. L'outre fraîche du silence, dictionnaire pour les yeux, pose 4 pas de 2. La petite dame boit les fleurs de pêcher, son poitrail est rose, ses intérieurs coraux. C'est ce qui plaît le plus à son vieil amoureux, lequel depuis longtemps fait voir son beau cerveau. Il est très doux d'aimer un homme chauve, tous les grands noms le sont. Ne t'englue pas dans le sébum, ô femme. Le rosier, le pêcher, la demoiselle chauve aiment d'un même amour faire voir leurs dessous en culbutant le ciel. C'est qu'ils aiment le loup, le rosier, le pêcher, la demoiselle chose. Peur d'avoir trop de peau et puis peur de sourire, et d'être ces jours-ci une brave grand-mère qui écosse des petits pois dans un voile d'argent. Avec le grand rire de la vie qui court partout et galope fracassant, les cervelles artistiques, les effets bicéphales. Au centre de cette ronde se tient pourtant, très cavale, la grand-mère d'un chacun. Vieille dame, tu as les pieds doux, des guêpes dans la tête, un corset, encore un corset, alors qu'un drap de peau scintille sur tes hanches. Je n'ai jamais entendu le bruit que fait la peau en poussant. Mon cœur est peu à peu devenu un gros oignon. Ma patrie est de plus en plus circonscrite. La société m'a fait cadeau d'un ciré hermétique. Et pourtant, je voudrais entendre le bruit que fait la peau en poussant. Celui qui frappe la peau du tambour, le sait-il ? Songe crépusculaire. Je songe à mon dernier amour, dans un corps pris de douleur crépusculaire. Je songe à moi, comme araignée au centre de sa toile. L'Atlantique est en train de reprendre mon corps. C'est mon vrai sang natal. Née native, je suis du battement perpétuel. Sang, eau de mer, même cantique, même saute d'humeur, même sommeil hanté de hautes vagues. Âme en proie à l'hiver. J'entre dans un bas de cristal, je suis un corps à l'état pur. Tout ce qui fait un organisme se fond dans la candeur de l'air. Je suis un fût, une corolle, une sculpture de glace, dans un paysage tout noir où le blanc va, transfigurant toutes les larmes des vivants. Un poème au plus près du cœur, tout rouge et noir, en ses volutes. Un flambeau pour ouvrir les yeux au cœur de la gagnante nuit. Un instrument consolateur qui flamboie dans les interstices de douleur et de haine.
Merci beaucoup. Alors, dans ce dernier temps d'échange, soyons constructives et puis regardons un petit peu l'avenir. Moi, j'ai envie de vous faire parler de vos projets. Tout simplement, c'est assez classique pour terminer une émission, mais puisque vous êtes là et que vous êtes toutes très actives et toujours en phase de création, ben voilà, je voudrais savoir un petit peu où vous en êtes de votre propre création et qu'est-ce qui va émerger bientôt de vos cerveaux, non de femmes, mais d'artistes.
Chloé Dubreuil.
Moi, je travaille sur un roman historique à l'heure actuelle, donc qui se passe au XIVe siècle. Voilà, donc quand je suis sur un projet d'écriture, je suis sur ce seul projet-là. Et après, logiquement, je devrais travailler avec un éditeur spécialisé dans l'histoire autour de la personnalité d'Evra Brown. Donc voilà, pour la mettre en lumière par le biais d'un livre, mais ça sera sûrement à partir de l'automne prochain.
Sandrine Laroche.
Moi, étant donné que en tant que photographe, j'ai travaillé beaucoup sur les espaces vides, sur des villes sans personne, sur des lieux abandonnés. J'ai aussi travaillé après énormément sur moi, mais là, j'avais envie d'aller à la rencontre de l'autre. Donc, faire un petit peu plus de photographie documentaire. Et puis accentuer un petit peu aussi mon travail sur le côté cinématographique en fait. Je réalise déjà quelques vidéos, mais je voudrais aller un petit peu plus loin là-dedans. Ça me ferait vraiment plaisir.
Ben, il y a peut-être de l'entraide entre artistes. Je vous passe la parole, vous, fabricante d'images.
Catherine Demeure, oui.
Qui sait ? Alors moi mon travail en général n'a pas de dimension politique et je pense pas forcément que l'art soit politique, mais il se trouve que là je travaille sur un projet sur la question de la femme avec le collectif Les Particules dont je fais partie et la compagnie Marche au Vol. Donc c'est un projet qui s'appelle Anastasis que je réalise avec Marthe Martins qui est metteur en scène et comédienne. Et là, je suis en train de concevoir une scénographie visuelle avec Claire Davy. Et donc, l'idée, c'est de créer une installation visuelle qui est une installation type art plastique, c'est-à-dire qui est à visiter et à vivre par un public, et dans lequel une performance sera réalisée par Marthe Martins, une performance théâtralisée. Et donc, ça part de l'histoire de Sodome et Gomorre, la ville qui a été détruite. Et donc, ça parle d'une femme qui a été enterrée dans du sel parce qu'elle n'a pas voulu se soumettre à la morale, elle n'a pas voulu se soumettre à la religion, et elle renaît. Elle renaît par une force de vie, par une envie de liberté, justement. Et donc, c'est un monologue qui parle de cette survivante.
Forcément aussi l'actualité du théâtre Astrée pour vous.
Claire Truche.
Ben oui, donc moi je suis directrice artistique de la énième compagnie et depuis 4 ans très liée au théâtre Astrée. Donc on y crée, on a la grande chance de pouvoir y créer. Donc là je travaille sur la prochaine création qui s'appelle De l'air. Et puis là on continue à tourner un texte que je fais avec la bande de spectateurs et qui est un texte de Catherine Zambon qui a été écrit dans des lieux de résistance comme Notre-Dame-des-Landes, le site d'enfouissement de Bure, ferme des mille vaches, et qui interroge qu'est-ce que c'est que de rentrer qu'est-ce que c'est que pour des gens qui n'avaient pas prévu dans leur vie de rentrer dans un engagement de résistance. Donc ça vient d'être fait il y a 3 jours et on va le continuer avec grand bonheur. Et je prépare aussi une lecture théâtralisée sur le chimiste et sa femme Fritz Haber.
Très bien, donc très éclectique, comme tout ce qu'on a parcouru le temps de cette émission. On va terminer par un moment de lecture. Alors, venez nous rejoindre. Je vous laisse vous présenter et nous dire ce que vous allez nous lire.
Merci. Je m'appelle Brigitte Molto. Je fais partie de la bande de spectateurs liée au théâtre Astrée et dirigée par Claire Truche. Et la bande de spectateurs est un groupe amateur. Et je vais vous lire des poèmes issus du recueil de Valérie Rousseau qui s'intitule « Va où ?» dans les éditions de la Table Ronde. Ma bouche ne fera pas d'histoire quand s'agira de la fermer. Ce sera tout moi, mon silence. Toute moi, ma rengaine arrêtée. Mes yeux d'avoir aimé vos yeux jusqu'à sourire jusqu'aux oreilles. Si je n'ai plus toutes mes dents comme aujourd'hui à 32 ans, c'est que j'aurais beaucoup mordu. Épuisé chance, épuisé chanson devenue muette, ce gros poisson pourra bien tourner sans parole. Sous le ciel couvert du marché, je m'aventure un vrai dimanche. Je fais mes affaires, elles sont bonnes, au milieu des paniers nombreux. Comme je ne remplis que mes yeux, je ne remplis que mon regard, qui me change en rêve les idées sous forme d'impensables poissons. J'arriverai chez mes amis les mains vides, avec une gaieté de rascasse rouge, sans parapluie. À tenir de quoi tenir droite, je penche. C'est de coucher sur le papier, drôle d'expression. Et je songe au vieux sage qui disait qu'on n'a pas même à soi un nom. Et je signe ce que j'éprouve sans trop en faire une montagne de mes oignons. Tant de vieilles à leur balcon, ça fait pas mal de géranium. De rouge, pile sous le ciel d'équerre. Elles iront toutes aller voir qui penche tellement. J'imagine leurs sentiments lourds. J'irai toutes, moi aussi, mais il y a le temps d'y penser. Je me sens du coup le cœur net, presque bleu, presque à la hauteur. Je pars, le cœur tapant, prendre le train en marche. Pile au signal sonore, monterai mon bagage avec ma vie entière. Sur les rails, je penserai à toute vitesse au bonheur étrange de sentir mon poids de chagrin lancé par des plaines jamais vues. J'apercevrai peut-être un vrai oiseau dont on me dira plus tard que c'était un hiatus. Un vrai oiseau, une authentique joie, ça va où? Nous serons bien avancés quand j'aurai posé pour moi cette question. Et cette question de ma peine et des plaines pleines de ma peine et de vent, je la laisse en suspens. On m'attendra sur le quai, à l'heure exacte. Je saluerai, coucou, par la fenêtre. J'aurai fait bon voyage. La nourriture sera bonne, le lit confortable. Je n'aurai ni faim, ni sommeil. Mais je ferai comme si, parce que ça ne mange pas de pain, contrairement aux oiseaux. Puis je repartirai, le cœur en miettes, toujours tapant et éperdu. Le dernier. Un jour, je resterai si longtemps qu'au matin, j'aurai un oiseau sur la tête. Un jour, jamais plus, je ne saurai retourner dans ma vie.
Belle conclusion, bravo. Merci. Bon, c'est ainsi qu'on va conclure cette émission. Vous n'avez quelque chose peut-être à rajouter, l'une de nos invitées. En tout cas, oui.
Juste dire une petite chose. Dans les manifestations, parce qu'il y en a quand même pas mal en ce moment, eh bien, il y a autant d'hommes que de femmes, de jeunes et d'âgés. Et là, au niveau d'une lutte politique, tout le monde est là, hommes et femmes.
C'est une lutte pour l'humanité, voilà. Bon ben, merci encore à tous d'être venus nous écouter. Merci à nos quatre invités, et puis on espère bien sûr les retrouver bientôt. Et merci. Merci beaucoup. Dans le genre masculin, donc.